Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Happy Days. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Allez, mettez une pièce dans le jukebox.
Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Play the glad rock.
Vous êtes Richie Cunningham. Vous vivez à Milwaukee et allez à la Jefferson High School. Là, votre ami est Potsy Weber. Ouais, drôle de nom, enfin c'est comme ça. Vos parents s'appellent Howard, il tient une quincaillerie, et Marion, qui est une femme au foyer. Vous avez une petite sœur, Joanie, et un grand frère, Chuck. Vous allez souvent dans le Diners de Arnold, le Arnold's Drive-In, parce qu'il y a un jukebox, ben justement, hein, comme celui que vous avez mis en route, et qu'on peut y écouter la musique du moment. Car oui, nous sommes maintenant dans les années 50. Ben, ça explique la musique et le jukebox. Hein. Évidemment, vous allez obtenir votre diplôme, et les années passant, vous allez vous engager dans l'armée, puis vous allez vous marier, et à la fin de votre séjour dans l'armée, vous allez annoncer à vos parents que vous, votre femme Lori Beth, et votre fils, le petit Richie, ouais, parce qu'entre-temps, vous avez eu un fils. Vous partez pour la Californie où vous allez tenter votre chance en tant que scénariste pour le cinéma ou la télévision. C'est un peu ironique, non? Mais évidemment, vous serez de retour à Milwaukee pour les grands événements tels le mariage de votre sœur Joanie. On passera donc allègrement du milieu des années 50, période où l'on vous découvre pour la première fois, à la décennie suivante, les 60s. Vous allez y vivre pas mal d'événements, dont un, et pas des moindres, sera la visite d'un extraterrestre, Mork, de la planète Ork. Mais tout cela s'avère un rêve. Ou peut-être pas. Enfin, ça dépend. Ouais, je sais, c'est pas hyper clair. Je vous rassure, pour nous non plus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que votre innocence, votre simplicité, est au cœur de votre série qui, se déroulant dans les années 50, joue totalement avec la fibre nostalgique. En plus d'être intemporelle, puisqu'elle décrit une époque passée, mais avec un regard actuel.
See you later, alligator.
Well, I saw my baby walking.
Oui, clairement, vous évoluez dans une époque où tout était plus simple, plus rangé, plus facile. Ce qui est moralement bien, ce qui est moralement mal. Et vous, ben vous êtes forcément bien. Le jeune Américain blanc, bien coiffé, bien habillé. Correct. Avec une famille affectueuse et une mère qui en fait des tonnes, et surtout des tonnes de nourriture. Bon, vous avez bien une connaissance qui est un peu à la frange, un marginal, qui ne parle pas comme tout le monde, d'ailleurs il parle pas beaucoup. Mais quand même, il n'arrête pas de dire « Nee, il porte des vêtements pas très conformistes ». Bon, vous allez quand même vous en faire un ami. À Milwaukee, à votre époque, dans votre univers, ben, il n'y a pas de Hells Angels. Votre époque, c'était les jours heureux, comme le dit le générique de fin. Hey, tu as de la chance, Richie. Bon allez, on change le disque, hein. Tu es né, Richie, en 1970, à cause d'une tempête de neige. Oui, ça peut paraître bizarre. C'est en effet de la neige qui a bloqué tous les avions au décollage et qui a incité les responsables de Paramount Television de l'époque, un certain Michael Eisner, et le responsable du développement, Tom Miller, de tuer le temps en imaginant une série télé. Chacun tout le temps comme il peut. Une comédie familiale, mais qui jouerait sur la nostalgie des années 50. Après quelques rejets, ben le pilote est finalement produit. Son titre, The New Family in Town, la nouvelle famille de la ville. Écoutez, vous vous en souvenez, en voici le début, c'est vous qui parlez.
It's pretty hard to be 16 and growing up. Maybe it was easier when my parents were young, but now it's the 1950s and the world's really getting complicated. Don't get me wrong, I have a great family. My father's in the hardware business. My mom does volunteer work for the Red Cross. My brother goes to college. And my sister wants to go to an orthodontist. Today's a big day. We are going to be the first family on the block to get a television set.
Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est très rare. Parce qu'on a très rarement revu ce pilote. Donc je comprendrai si vous ne vous en souvenez pas. Et vous faites donc partie de la famille Cunningham. Sauf que elle n'est pas tout à fait définitive. Bah, en effet, votre père, Howard, là, il est incarné par Herod Gould. Et votre sœur, Joanie, par Suzanne Nair. Ouais, ben ça vous fait quand même un peu tiquer. Hein. Mais bon, par contre, votre mère, c'est bien la géniale actrice Marion Ross. Anson Williams est bien petit, et vous, vous êtes bien interprété par un jeune acteur, déjà bien connu du public américain, Ron Howard. N'étais pas certain de vouloir refaire une série télé, car j'avais déjà été dans le Andy Griffith Show de 1960 à 1968. Mais j'ai lu le script, j'ai aimé le sujet, et j'ai aimé le rôle. Ron Howard, que l'on vient d'entendre dans une émission rétrospective sur la série, est devenu l'enfant chéri de l'Amérique en jouant donc 8 saisons durant le fils de Andy Griffith dans la comédie The Andy Griffith Show. Il avait 5 ans, il avait déjà fait des apparitions dans The Twilight Zone par exemple, mais ce rôle dans cette comédie rurale le rendit très populaire. Une fois en boîte, le pilote est refusé. Principalement parce qu'on pense que le côté nostalgique des années 50 ne marchera jamais sur le public. Pitoyablement, on va recycler ce pilote en tant qu'un épisode de l'anthologie Love American Style. Alors Love American Style, c'est une série assez populaire. Elle a démarré en 1969 sur ABC. Elle propose chaque semaine 2 ou 3 histoires ayant pour thème central l'amour. Le pilote est rebaptisé Love on the Television Set, le fameux poste de télévision que votre famille achète dans le pilote. Chaque épisode de la série a pour titre d'ailleurs Love et quelque chose. Un an plus tard, ce pilote refusé est donc envoyé à George Lucas, un jeune réalisateur qui prépare un film sur les années 60. Vous savez, c'est de ce monsieur dont on a beaucoup parlé ici ces 2 dernières semaines. Lui, il pense à Ron Howard pour le rôle principal de ce film, mais il voudrait déjà le voir dans un film avant de se prononcer. Et ce Love on the Television Set est absolument parfait pour cela. En un instant, il va engager Ron Howard et son film devient un des plus gros succès de l'année 1973. Son titre, American Graffiti. Et au même moment, une comédie musicale démarre à Chicago et fait un triomphe. Son nom, Grease. Là, l'occasion est trop belle. D'autant que le network ABC a plein de soucis avec sa grille de programme. En plus des séries qui ne fonctionnent pas et sont arrêtées, ce qui est quand même assez courant sur toutes les chaînes, il manque non seulement un style qui soit bien à la chaîne ABC, mais aussi des comédies familiales permettant d'ouvrir l'antenne à chaque prime time. The Partridge Family et The Brady Bunch et même Ma Sorcière Bien-Aimée se sont achevés, donc ABC va tenter le coup avec Happy Days, 4 ans après que son pilote ait été retoqué. Quand même pas mal. Richie Cunningham, donc vous, est ressuscité, eh ben oui, vous êtes ressuscité, avec un nouveau père, incarné ce coup-ci par Tom Bosley. Parce qu'entre-temps, Harold Gould n'était plus disponible. Il était en pleine représentation d'une pièce de théâtre. Et tu as aussi un père qui va veiller sur toi, Richie. Gary Marshall, un producteur qui a déjà fait de nombreuses comédies à succès, comme le Dick Van Dyke Show et The Odd Couple. C'est lui qui va donc refaire le pilote et il va te faire revenir et relancer le projet. Allez, maintenant on change de disque. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. Happy Days est donc lancé en janvier 1974, le mardi soir à 20h. Dans cette case, il remplace une comédie médicale qui, malgré des changements de casting et de production, ne parvient pas à trouver son public depuis 1 an et demi. Elle s'appelle Temperature Rising, la température qui monte. Donc, après cet échec, Happy Days, votre nouvelle série, ne peut pas être pire. Les épisodes de cette première saison vous mettent en scène principalement comme un jeune garçon innocent, un peu trop franc, un peu trop gentil. Dans le troisième épisode, vous revenez complètement sous d'une soirée et évidemment, vous vous faites interpeller par vos parents. Mais c'est quand même vous la star de la série. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on vous l'a vendu. Et puis, vous vous souvenez, vous avez un frère. Vous avez une sœur, Joanie, mais surtout un frère, Chuck. Initialement, il est interprété par Gavin O'Herlihy, puis par Randolph Roberts pour la saison suivante, qui, elle, démarre à la rentrée 1974. Mais si vous n'avez qu'un très vague souvenir de lui, c'est un peu normal. Non seulement il n'intervenait pas très souvent dans les épisodes de votre vie cathodique, mais en plus, il a disparu un bon jour pour ne plus jamais revenir. Et c'est même pire, il n'a plus jamais été mentionné. En fait, vous n'avez jamais eu de frère à entendre les personnages dans les épisodes suivants. Chuck a été zappé de votre existence. Bon, allez, un nouveau disque, on change, parce que celui-là, il est trop connu. Vous avez remis de la monnaie dans le jukebox, Bon, allez, très bien, c'est reparti. Initialement, Happy Days se tourne en monocaméra, comme un film ou comme une série dramatique. C'est-à-dire avec des mouvements, des extérieurs, des valeurs de plan différentes, gros plan, plan moyen, profil, etc. C'est un luxe Pour l'époque, seuls des sitcoms de la notoriété de MASH, ou du Andy Griffith Show justement, le font elles aussi. Comme il s'agit d'une sitcom, on ajoute des rires, pas des rires d'un public qui n'existe pas. Mais à partir du milieu de la saison 2, avec un épisode qui change aussi radicalement l'orientation de la série, en la centrant beaucoup plus non plus sur vous, Richie, mais sur Fonzie, tant Fonzie va-t-il se marier ? C'est d'ailleurs vous qui découvrez que la promise de Fonzie est en fait une stripteaseuse, mais enfin bon, ça c'est une parenthèse. La série va changer de format. Elle adopte un style sitcom. Elle est tournée en une après-midi devant un vrai public sur le stage 19 des studios de la Paramount. Tonight's Happy Days was filmed before a live audience. Eh ouais, ce format a été définitivement adopté avec la saison 3, dans le but de faire remonter les audiences, qui étaient quand même assez faibles. Évidemment, la mise en scène change considérablement et se limite aux deux décors établis dans le studio, la maison de Cunningham ou le drive-in où les personnages se retrouvent. Par contre, cela entraîne une bien plus grande spontanéité avec les comédiens dans l'interprétation de leurs personnages. Ils sont face à un public.
Must be untried.
Oh, right, untried.
Five.
What's untried?
Dummy. It means she's never been in court. It means that she's gotta be pure. She's gotta be a virgin.
Virgin.
Alors, par contre, cela n'a pas été très bénéfique du tout pour la diffusion en France. Parce qu'en effet, bah en France, on a décidé de supprimer purement et simplement les rires et les réactions du public. Ça part d'un bon sentiment, hein. Mais sans les cris, les applaudissements, les autres réactions, là que vous venez d'entendre, les acteurs se tiennent quelquefois immobiles, muets, sans rien dire, sans rien faire. Parce que dans la VO, ils laissent un peu passer les réactions hystériques des spectateurs, hein. Et dans la VF, bah ils ne font donc rien. Ça plombe considérablement le rythme de la sitcom. Si vous avez l'occasion de revoir un épisode en version française, vous allez voir, c'est très, très perturbant. Bon, allez, un nouveau morceau, hein. Dès le début de la série, vous aviez aussi une personne qui est devenue votre ami, votre protecteur, votre frère. Son nom est Arthur Fonzarelli. Mais en fait, on l'appelle le Fonz.
Ce que Michael Eisner et Tom Miller voulaient, c'était un gang. Parce qu'il y avait un gang dans American Graffiti. Et je n'avais pas la place pour tout un gang, alors je leur ai dit, je vais vous donner un personnage qui sera un gang à lui tout seul.
C'est Gary Marshall qui vient de raconter, toujours dans ce même documentaire sur les 30 ans de la série, comment et pourquoi il a ajouté le personnage de Fonzie. À la base, Arthur Fonzarelli, est seul, il est rejeté par son père qui le refusera même de voir quand il passera à Milwaukee et il souffre de l'absence de toute sa famille. Mais pour tous les autres, Arthur s'est bâti l'identité de Fonz, un blouson noir au grand cœur. Un mec qui symbolise la coolitude ultime, qui drague les filles rien qu'en claquant des doigts, qui frappe sur le jukebox pour lancer son morceau préféré et n'a pas besoin de se recoiffer tellement il est parfait. Écoutez comment Fonzie est né, de la bouche même de son interprète, Henry Winkler.
Je me suis promis de ne jamais me recoiffer, de ne pas porter de ceinture de type militaire, de ne pas porter une cigarette dans ma manche et de ne pas mâcher du chewing-gum. Parce que ce sont les attributs qu'ont tous les autres acteurs qui jouent ce type de personnage. Le réalisateur du premier épisode me dit que je dois aller devant le miroir pour me recoiffer. Et je l'ai supplié, par pitié, j'ai fait une promesse. Il m'a dit, désolé, tu dois le faire. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis approché du miroir, je me préparais à me recoiffer, et là, non, pas besoin. Là, j'étais en accord avec moi-même et avec ce qui est écrit. Et Fonzie est né juste à ce moment-là.
C'est sur cette base, Richie, que vous l'avez rencontré. Et le fait que vous aviez une boîte à déjeuner aux couleurs du Lone Ranger, son personnage favori, n'a pas aidé. Mais il n'était pas aussi méchant qu'il le laissait paraître. En fait, c'est une façade. Et vous vous êtes liés d'amitié. Henry Winkler a d'ailleurs beaucoup de chance. Parce qu'à l'origine, c'était Mickey Dolenz, l'un des membres du groupe des Monkees qui devait incarner le personnage. Mais ben Mickey Dolenz, il est très trop grand. Au début d'ailleurs, pour des raisons d'image, il n'est pas question qu'il porte un blouson noir. Parce que c'était symboliquement associé aux voyous et aux bandits. Au début donc, Fonzie porte un blouson coupe-vent, beige. Oui, ça c'est pas top. Et puis les producteurs ont argumenté que, comme Fonzie avait une moto, ben c'était normal qu'il porte un blouson de cuir. Alors oui, d'accord, dit la chaîne, mais seulement quand il est sur ou à côté de la moto. Résultat, pendant longtemps, si vous regardez bien la série, vous voyez Fonzie toujours sur sa moto, même quand il est à l'intérieur du diner, ou la moto est juste à côté, même à l'intérieur. Cette obligation est d'ailleurs devenue un gag visuel qui renforce le côté parodique du personnage. C'est d'autant plus ironique que Henry Winkler, l'interprète donc de Fonzie, n'avait jamais conduit de moto. Et lors de son premier essai, eh ben, il s'est écrasé sur une voiture technique. Ce fut la première et la dernière fois qu'il conduisit une moto. Mais la moto omniprésente devient un gag récurrent, tout comme le pouce levé et son cri de satisfaction, le « Hey ! » !»«
Hey ! »
Je sais, il le fait beaucoup mieux que moi. Et après quelques épisodes, son cri de satisfaction devient un gimmick extrêmement attendu du public et des spectateurs et qui rythme chaque épisode. Écoutez ça.
« Hey ! »
En deux saisons, Fonzie est devenu bien plus expansif que le personnage souvent muet des premiers épisodes. Et il est aussi devenu très populaire. Oserais-je dire, plus populaire que vous, Richie. Bon alors, je m'explique. Les histoires avec vous et vos parents, elles sont quand même assez banales. Hein. C'est du genre, Richie est amoureux, vous voyez quoi. Une des plus originales au début est celle où vous participez à un jeu télévisé. Et vous découvrez que le jeu est truqué. Mais vous refusez de participer à l'arnaque. Et ça faisait clairement allusion au grand scandale des jeux télé truqués qui a réellement sonné le glas des jeux d'argent en prime time à la télévision américaine dans les années 50. Fonzie, lui, est plus extrême. Il possède plus de possibilités pour des histoires, le mettant en conflit avec son propre image. Il a plusieurs dimensions, il peut même faire preuve de vulnérabilité. Pendant la saison 2, 10 000 des 15 000 lettres adressées à la série le sont pour Fonzie. Fonzie a trois passions, les filles, sa moto et les chewing-gum. Dès la saison 3, la majorité des épisodes seront centrés sur Fonzie. Et il va même vivre chez vous, au-dessus du garage. Ce n'est plus une pièce rapportée, mais un élément de la famille. Sa popularité va faire bondir d'ailleurs l'audience de la série, qui se tassait quand même assez fortement dans la saison 2. Il va donc un peu vous voler la vedette. Et au générique, il passera en 5e, puis en 3e, puis en 2e, juste derrière vous, dans les apparitions dans le générique. D'autant plus quand, en 7e saison, vous allez vous absenter de la série. Oui, Ron Howard commençait à avoir des opportunités de réalisateur, il a dû abandonner les rigueurs du tournage de Happy Days. Mais ce qui pouvait se transformer en rivalité a toujours été en fait de l'amitié. Car Ron Howard est devenu extrêmement ami avec Henry Winkler, qui tient le rôle de Fonzie. Dans la scène où vous faites vos adieux à Fonzie, ben en réalité c'est Ron Howard qui dit à Henry Winkler à quel point il a été pour lui un frère et un protecteur. Et c'est Henry Winkler qui lui répond, et pas ce personnage de Fonzie, avec l'humour, bien sûr, l'humour de Fonzie. Écoutez.
How do you thank somebody who's been everything to you? Your brother, your protector, you delivered my own child. I just don't know how I could ever say that.
I think you just did.
Henry Winkler, qui a été repéré grâce à son rôle dans le film Les mains dans les poches, gagnait $750 par épisode au début de la série. Quelques saisons plus tard, il empoche $80 000 chaque semaine, plus un pourcentage sur les bénéfices et sur les droits dérivés de son personnage. Une belle revanche pour un acteur totalement sincère, d'une gentillesse sans bornes et qui a beaucoup souffert d'une dyslexie qu'on ne lui avait pas diagnostiquée durant l'enfance. Grâce à Fonzie, Happy Day passe dans les audiences annuelles graduellement de la 16e à la 11e place à sa saison 3, puis premier. Ouais, vous avez bien entendu, premier, tout programme confondu pour la saison 1976-1977. Le blouson noir de Fonzie, vous savez, celui dont la chaîne ABC ne voulait pas entendre parler au début. Il est maintenant exposé au Musée National de l'Histoire Américaine, la Smithsonian Institution. Bon, les Richie, tu nous changes le disque, là ? Ah ouais, c'est bien, ça, j'aime bien. Le succès quasi phénoménal de Happy Days ne pouvait pas passer inaperçu. Vous le savez bien, quand quelque chose marche, le but est de le multiplier, de le cloner, de le disséminer. Ah, c'est le show business. Ainsi sont lancées les kid-coms. Les comédies faites pour les kids. Bon, en fait, pour la famille tout entière, mais centré du point de vue des kids. Et on commence avec la Verna Shirley, des personnages de la première série dérivée de Happy Days qui sont lancés dans Happy Days en novembre 1975. Toutes les deux, elles essaient de séduire Richie et Fonzie, alors que leur série démarre en janvier de l'année suivante, 1976. Les deux amies, Laverne et Shirley, vivent aussi à Milwaukee, dans les années 50. Elles travaillent toutes deux dans une brasserie, sont les meilleures amies du monde, et elles courent les hommes avec frénésie. Shirley Finney est la candide sentimentale, Laverne Di Fazio, elle, la mentale du duo. La sitcom que Gary Marshall veut en tirer fait référence aux grandes comédies burlesques des années 60, comme I Love Lucy. Il n'y est pas question de sujets d'actualité ni de répliques cinglantes et pleines de sens, mais d'humour physique, de grimaces, de cris, de déguisements. Comme l'épisode où les deux filles se déguisent en hommes pour entrer dans les toilettes pour hommes d'un bar où un ami à elle leur a fait une farce en laissant leur numéro de téléphone écrit sur le mur. Vous voyez le genre.
Hello baby!
Laverne et Shirley, incarnées par Penny Marshall, qui bien que sœur du producteur Gary Marshall, s'était déjà forgé une belle réputation de comédienne dans plusieurs sitcoms, et Cindy Williams, qui était, comme vous Richie, dans American Graffiti, sont les deux actrices qui deviennent des superstars. Parce qu'en fait, Laverne et Shirley a été un hit monumental, et il dure 8 saisons. Penny Marshall a ensuite connu une grande carrière de réalisatrice, avec des films comme Jumping Jack Flash avec Whoopi Goldberg, Big avec Tom Hanks, L'Éveil avec Robert De Niro. Elle était mariée à Rob Reiner, elle est décédée en 2018. Un jour, le fils de 9 ans du producteur Gary Marshall lui dit « Hey papa, il faudrait que la Garde des Étoiles vienne rendre visite à Fonzie. » Alors, pour lui faire plaisir, Gary Marshall inventa le personnage de Mork, un extraterrestre qui débarque à Milwaukee dans les années 50. Il est expédié sur Terre pour étudier ses habitants et faire des rapports à Orson, son supérieur. Il a été éjecté de sa planète, Ork, parce qu'il avait un sens de l'humour. En fait, Mork est dans la droite ligne des personnages de sitcom fantastiques des années 60, comme le martien de Mon Martien Favori. Pendant le casting, pour trouver l'interprète de ce personnage pour un épisode, donc de Happy Days, un des comédiens arrive, et dans le rôle de Ork, ben, il s'assoit. Il s'assoit sur sa tête. Donc, ça veut dire qu'il a parfaitement compris le rôle, il est immédiatement engagé. Mork apparaît donc dans un épisode de Happy Days et menace de vous enlever, vous, Richie.
Who are you?
I am Mork, from Ork.
Que buzz? Allez, buzz up, you buzz up.
Let us make it official. We must introduce the local celebrities.
À la fin de l'épisode, on fait croire que ce n'était qu'un rêve tout ça. Hein. Mais pourtant, Mork existe bel et bien avec son humour délirant, ses phrases comme « Nano Nano » et son œuf qui lui sert de vaisseau spatial.
« I am Mork from Mork.
Nano Nano. I'm Mindy McConnell. »
Et Mork, on le retrouve dorénavant en 1978. Parce que l'épisode a été si populaire qu'on lui donne sa propre série à la rentrée, Mork et Mindy. Mindy étant une jolie jeune fille qui l'héberge. La sitcom est devenue un succès instantanément, mais c'est surtout grâce à son interprète, celui qui s'était assis sur la tête et qui s'implique corps et âme dans la série, au point d'improviser grandement chaque séquence. Son nom, Robin Williams. Il gagnait 15 000 dollars par épisode, et dès la saison 2, son salaire a été doublé, et sa carrière cinématographique a été stratosphérique. Mais c'est dans Mork & Mindy, la série dérivée de Happy Days, que son talent incomparable a éclaté au grand jour, devant, tenez-vous bien, 57 millions d'Américains. Ce type de programme va impacter toute la chaîne ABC. De plus en plus, les programmes s'infantilisent, et aucun nouveau pitch n'est trop lourd pour la chaîne qui lance donc Three's Company, avec John Ryder, qui prétend être homosexuel pour pouvoir partager son appartement avec deux filles hyper sexy, les gens, et Bosom Buddies avec Tom Hanks, où deux colocataires se font passer pour des filles, Buffy et Hildegard, histoire de pouvoir loger dans un immeuble réservé aux jolies jeunes filles. Et n'oublions pas que beaucoup de spectateurs regardent aussi la nouvelle série de ABC Drôle de Dame, uniquement dans le but de voir la scène où systématiquement les filles se montraient avec un t-shirt moulant et souvent mouillé. Dans son orientation juvénile, ABC fut même rebaptisé par les critiques en Acne Broadcasting Company, le network Clair Asile.
Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy.
Ouais, on a beau se moquer, mais cela va marcher au-delà de toute espérance. Deux saisons de suite, en 77-78, puis en 78-79, toutes les premières places des audiences sont prises par des séries de ABC. Laverne Shirley, Happy Days, Three's Company, Mork & Mindy, Charlie's Angels, les comédies fun et jeunes détrônent la grande comédie familiale All in the Family. D'autres séries dérivées sont aussi créées, mais leur popularité reste mineure. Il y a eu Blansky Beauties, sur la propriétaire d'un hôtel exclusivement pour jeunes filles, avec Nancy Walker, et Out of the Blue, et son professeur de lycée qui se révèle être un ange tombé du ciel.
We got it all together now, gang. The Fonz.
Mais la série dérivée la plus improbable fut une série animée pour le samedi matin. Le Fonz et les Happy Days Gang. Avec vous, Richie, et avec le Fonz, vous êtes emportés dans une soucoupe volante à travers les époques. Et ce sont même Henri Leclerc, Denis Most et vous, Richie, à savoir Ron Howard, qui faites les voix de vos incarnations animées. L'ironie est que vous avez même repris le rôle pour ce dessin animé, alors que vous l'aviez quitté dans la série en acteur live en 1980. Bon, Richie, tu nous changes le disque, là. Encore ? Ah ouais, mais c'est pas tout à fait la même version, bon, d'accord. Maintenant, on va évoquer l'évolution et les changements qui se sont opérés dans la série. En saison 4, à la rentrée 1976, Al Molinaro, un acteur déjà connu pour la sitcom The Odd Couple, va remplacer Pat Morita, alias Arnold, Matsuo Takahashi, en tant que patron du diner Arnold où les personnages se retrouvent. Ouais, Pat Morita. Ouais, le Pat Morita de Karate Kid. Parce que l'acteur avait déjà une longue carrière dans des comédies comme Anna et le Roi, par exemple. Et là, il démarrait une sitcom où il était la vedette, Mr. T et Tina. Bon, elle dura que 6 épisodes. En 1977, arrive le personnage de Chachi Arcola, le jeune cousin de Fonzie. Il est incarné par une idole des jeunes, Scott Baio, qui était la vedette du film d'Alan Parker, Bugsy Malone. Son impact sur la série, et principalement auprès d'un public jeune, va être gigantesque. Scott Baio va occuper la première place dans bon nombre d'épisodes, d'autant qu'il en pince pour Johnny Cunningham, et que eux deux vont même avoir droit à leur courte sitcom dérivée, Johnny Love Chachi. Donc vous entendez en ce moment la musique de générique, parce qu'il chante dans la musique de générique. Mais c'est joli, hein. Après 4 épisodes test, la saison 2 de cette série, Johnny Love Chachi, n'a pas marché. Leur place, à Chachi, tout comme à Johnny, c'est dans les jours heureux. Linda Goodfriend tient le rôle de Laurie Beth à partir de la saison 5. C'est un personnage qui va devenir très important pour vous, Richie. Il va évidemment entraîner des fâcheries et des ruptures, mais aussi des retrouvailles. La saison 4 tenta d'imposer une petite amie pour Fonzie, en la personne de Pinky Tuscaredo. Sauf que son interprète, Rose Kelly, tenait à tout prix à imiter Henry Winkler. Ça lui a valu l'inimitié de tout le monde pendant le tournage. Elle a rapidement été débarquée. Mais remplacée, la saison suivante, par sa sœur, ils sont futés, Lizer Tuscaredo, qui, elle, marqua un peu plus la série. Et pour cause, elle était incarnée par Suzy Quatro. Ouais, ouais, la chanteuse rock Suzy Quatro. Celle qui chantait ça. Absolument, elle était dans Happy Days. Et là, ça a quand même un peu mieux marché, le temps de 7 épisodes répartis sur 2 saisons, les 5e et 6e. Il a même été question à un moment de confier à Suzy Quatro, et donc à Lizer, sa propre série. Mais la chanteuse a refusé. C'est une chanteuse et pas une comédienne. À la rentrée 1980, pour la saison 8, on va tenter de compenser votre départ de la série, Richie, avec la venue de deux nouveaux personnages. Jenny Piccolo, interprétée par Kathy Silvers, qui est depuis le début la meilleure amie de Johnny, mais on ne l'a jamais vue. Là, maintenant, ça y est, elle débarque en vrai pour booster la série. Et puis, Roger Phillips, alias Ted McGinley, que l'on retrouvera dans Marié deux enfants et dans Dynasty, entre autres. Il tient ici le rôle d'un neveu de Marion Cunningham, où ils sont tous plus ou moins neveux, nièces, enfin voilà, qui devient prof d'anglais et entraîneur de l'équipe de basket à Jefferson High. Il en deviendra d'ailleurs le principal en saison 11. Il sera rejoint, en saison 10, par Flip, son jeune frère, incarné par Billy Warlock. Le Billy Warlock qui sera un des sauveteurs d'Alerte à Malibu. Ouais, vraiment, pépinière de talent. Hein. En fait, la raison d'avoir fait intervenir Flip et Cassie, la nièce d'Howard, c'était de recréer le couple Johnny et Chachi, alors que les deux personnages étaient dorénavant dans leur propre sitcom. Mais dès que celle-ci a été annulée faute d'audience, Scott Baio et Erin Morand sont revenus dans Happy Days, et Flip et Cassie, bah, ils ont disparu du jour au lendemain. C'était le syndrome Chuck, hein. On appelle ça le syndrome Chuck. Voilà, le frère qui disparaît. Et bah eux aussi. Et c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que Crystal Bernard, qui tenait le rôle de Cassie, a aussi une carrière de chanteuse. Elle chante même aussi dans la série. Écoutez. En saison 3, Richie s'est retrouvé avec un copain de couleur, Bill Donnet, que l'on surnomme Styx, parce qu'il joue de la batterie. Donc il a des baguettes. Styx. Voilà. Il a été incarné deux épisodes durant par John Bailey, un acteur qui a connu son heure de gloire dans plus de 140 films, des films pornographiques. Et à partir de la saison 10, Linda Pearl va tenir le rôle de la petite amie de Fonzie, Ashley. Bon allez Richie, un dernier pour la route, hein, d'accord ? Allez, alors ce coup-ci c'est moi qui choisis, hein, laisse-moi faire. La cinquième saison de Happy Days, à la rentrée 1977, s'ouvre, comme c'est l'habitude avec cette série, par un épisode plus long en trois parties, tourné en extérieur et donc plus ambitieux que les autres. Hollywood, c'est le titre de l'épisode, met en scène Fonzie, toujours lui, qui se laisse tenter par les propositions d'un réalisateur et débarque dans la cité du cinéma. Et dans une scène, on lui demande de réaliser un exploit devant les caméras, du ski nautique, puisque l'acteur faisait vraiment du ski nautique, revêtu de son célèbre blouson de cuir, et de faire un saut par-dessus un requin. Ouais, les requins étaient à la mode à cette époque, grâce au film de Spielberg Les Dents de la Mer, et la même saison d'ailleurs, L'Homme qui valait 3 milliards ouvrait sa saison avec un double épisode intitulé Sharks, et on le voyait nager au milieu des requins.
Shark. That is the stupidest thing I've ever heard.
Stupid, yes. Also dumb, but it's something I gotta do.
Fonz, you're not jumping over garbage cans on a bike. You're jumping over a shark. On nothing, on a couple of little skis. One little slip and chomp, chomp, chomp.
Oui, ben, tout comme vous, Richie, moi je pense aussi que c'était quand même totalement ridicule. Ce moment dans Happy Days est devenu célèbre pour repousser les limites de la crédibilité envers le spectateur. Certes, on est dans une comédie, mais quand même, sauter en ski nautique par-dessus un requin, c'est tellement n'importe quoi que c'est le témoignage de l'impuissance des scénaristes à trouver quelque chose d'intéressant. Et l'expression est restée. Encore de nos jours, quand une série repousse toutes les limites de la crédibilité et s'aliène ses propres spectateurs, on dit qu'elle a « jumpé the shark », elle a sauté le requin. Dans le cas de Happy Days, si on compte le fait qu'il y a eu encore près de 100 épisodes après avoir sauté le requin, la série n'a pas fait, elle, un si mauvais saut que ça. Ah tiens, encore une version différente ? Ah oui, là c'est pour la saison 11. Enfin, je n'ai pas cité Ralph Malph, votre copain à vous et à Potsy. C'est peut-être parce qu'il est très effacé et que son rôle consiste à être une éternelle victime, un pleureur. Il était incarné par Don Most. Et puis il y avait aussi la catchphrase de la série, sit on it. C'est même écrit dans le générique.
Oh, sit on it, Potsy.
Sit on it, Howard.
Sit on it, Potsy. Hey!
Oh, Howard, what am I going to do with this?
Bon alors, ça veut dire un peu ce que l'on veut, hein, mais surtout, ça remplace une sorte de « va te faire voir », ce serait un peu de mauvais goût à la télévision, un peu comme le frac de Battlestar Galactica. Mais Richie, ce que l'on retiendra avant tout de tes jours heureux, c'est que même si les années 50 et la nostalgie étaient très 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 sérieusement édulcorées, même si on les a très clairement oubliées au bout d'un moment, à tel point qu'ils n'étaient plus qu'un gimmick, un élément musical ou de costume, même si, comme le disent certains critiques, la charmante chronique nostalgique des premières années, un peu comme l'a été ensuite les années coup de cœur, The Wonder Years, a cédé la place à une comédie devant un public avec des vociférations, des hurlements hystériques et des situations grotesques, sans grande nuance ni vraie intelligence, c'est pas gentil, mais faut reconnaître que c'est quand même pas complètement faux. Non, ce que toi tu retiendras, ce qui est parvenu jusqu'au spectateur, presque par osmose, c'est cette affection profonde et sincère qui vous a et continue de tous vous lier. Et ça, je peux en témoigner. Dans chacune des émissions rétrospectives, dans tous les interviews, les protagonistes, Ron Howard, Henry Winkler, Marion Ross, le producteur Gary Marshall, parlent de la famille qu'ils ont formée grâce à cette série, au point de créer une équipe de baseball et de sillonner le pays et même les bases militaires américaines à l'étranger pour distraire les gens. Alors que certains d'entre eux ne savaient même pas jouer au baseball. Toutes les rencontres que moi j'ai faites avec Henry Winkler, avec Marion Ross, avec Ron Howard, portaient à chaque fois sur leur fierté d'avoir fait Happy Days, mais aussi sur l'amitié très profonde qui les lie tous et toutes. Zéro ego, zéro rivalité. D'autant que certains, comme Erring Moran ou Scott Baio, ont non seulement débuté tout jeune dans la série, pour ensuite devenir, sous nos yeux, des adolescentes et adolescents. C'est d'ailleurs à cette famille, à ta famille, Richie, que ton père fait allusion dans les dernières secondes de la série, dans le tout dernier épisode. Il s'adresse aux spectateurs. Écoutez bien.
So thank you all for being part of our family. To Happy Days.
Et ça, Richie, ça n'a pas de prix. Ça, c'était vraiment tes jours heureux. Ça, c'est ce qui te fait chanter ta chanson fétiche.
I found my thrill.
Eh ouais, cette chanson de Fats Domino, tu ne pouvais pas t'empêcher de la fredonner quand tu étais en route pour un rendez-vous galant. Bon, autrement dit, quand tu allais passer un moment avec une fille. C'était devenu ton gimmick. Mais dans le tout dernier épisode de la série, c'est devenu l'hymne que Pudsey, Ralphie et Fonzie chantent avec toi. Et même si maintenant Fonzie est devenu producteur de MacGyver, qu'on a pu le revoir dans The Practice, dans Park and Recreation et dans la comédie Barry, si toi tu es devenu un des plus grands réalisateurs d'Hollywood avec une filmographie impressionnante, Splash, Cocoon, Willow, Apollo 13, Backdraft, Solo, le Da Vinci Code et le coprésident de Imagine, la firme qui a produit 24 et Arrested Development entre autres, même si chacun a poursuivi sa route, vous n'oublierez jamais les Happy Days. Dans le prochain Previously, on disséquera les tics, les habitudes, le comportement et l'arrogance du diagnosticien le plus connu des séries télé. Allez, on appellera le Dr House. Ce podcast est disponible sur Audio Now, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.